Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Eddie Claude Ninina Hazgwe.
Vous êtes bien sûr la radio Nzambaga TKK, oui, c'est l'heure de l'actualité de ce mercredi, dont voici les principales articulations. 24e anniversaire aujourd'hui de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. La coalition de l'opposition CFOR Arusha déplore que le parti CNDD-FDD a enterré cet accord durement négocié pour réconcilier le peuple burundais. Et puis la syndicaliste Emilienne Sibomana croupit toujours en prison alors qu'elle a été acquittée il y a 2 mois. Les hommes de loi crient à la violation flagrante de la loi. Enfin, 19 orpailleurs ont été tués dans les travaux d'exploitation minière depuis le mois d'octobre 2023 au mois de mars 2024. La Ligue des droits de l'homme appelle le gouvernement à mieux gérer ce secteur pour limiter les dégâts. Voilà pour le sommaire et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Aujourd'hui, c'est le 24e anniversaire de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Cet accord signé le 28 août 2000 avait pour objectif de réconcilier les Burundais rongés depuis des années par des conflits politico-ethniques. Seule la voie des négociations pouvait aider à sortir les Burundais des crises cycliques. Jean-Jean Barguira nous en dit plus.
La principale raison qui a poussé les Burundais à emprunter la voie des négociations à Arusha en Tanzanie est un conflit historique, à la fois politique et ethnique. Deux partis s'affrontaient. L'une voulait le pouvoir, l'autre chercha à le garder. Les différents problèmes que le Burundi a connus, depuis la royauté jusqu'au régime qui se sont succédés, ont créé des divisions sociales qui ont conduit les Burundais à s'entretuer. La situation s'est aggravée en 1993, après la mort du président Mekio Ndadaye. 2 ans plus tard, une nouvelle rébellion, le FDD, vit le jour, en plus du FNL qui combattait le gouvernement depuis des années. À cette époque, le Burundi vivait dans une insécurité permanente. Des innocents étaient régulièrement massacrés sur les routes, à leur poste ou dans leur domicile. La seule voie qui restait pour amener la paix était celle des négociations. Dans cette optique, avec le médiateur Julius Nyerere, ancien président de la Tanzanie, des acteurs politiques burundais se sont retrouvés à Arusha pour réfléchir ensemble à l'avenir de leur pays. Après sa mort, Julius Nyerere a été remplacé par Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud. Les deux partis se sont accordés sur la mise en place d'une constitution s'inspirant des réalités burundaises, fondée sur des valeurs de justice, de primauté du droit, de la démocratie, de bonne gouvernance, du pluralisme, du respect des droits et libertés fondamentaux des individus, l'unité et la tolérance entre les différentes composantes politiques et ethniques du Burundi. La prévention du génocide, d'autres crimes et des crimes de guerre, est aussi mentionné dans cet accord d'Arusha. Même si l'accord prévoyait des quotas ethniques dans certaines institutions comme l'armée, à partir de 2015, il a été relégué aux oubliettes.
Merci Jean-Zé Abarugira. Frédéric Mambrignouvila, président de la coalition de l'opposition politique CFOR Arusha, constate avec amertume que l'ouf de soulagement poussé par les Burundais après la signature de cet accord n'a duré que le temps de l'arroser. Il explique que quand le parti CNDD-FDD est arrivé au pouvoir grâce à cet accord, il n'a pas hésité à l'enterrer. Suivez.
Avec tout cela, nous avons obtenu la paix. Alors, ils s'étaient entendus sur comment aborder les problèmes, d'ailleurs qu'ils s'entendaient sur l'origine des conflits ou la nature du conflit, et que c'était un conflit d'ordre politique avec justement des manifestations d'ordre ethnique. Il fallait résoudre ce genre de problème en mettant en place des structures étatiques qui répondaient à ce souci. Malheureusement, nous étions tenus à organiser les élections en 2005, les élections qui ont été gagnées par le CNDD-FDD, qui avait malheureusement signé l'accord, mais qui ne voulait pas s'inscrire dans cette ligne tracée par les négociateurs d'Arusha. Et ils ne le déclaraient pas, il a essayé de ronger le système du dedans, quitte à ce qu'ils puissent se déclarer tels qu'ils étaient et avec l'adoption ou la promulgation de la constitution de 2018. C'est à partir de ce moment-là que le Burundi a commencé à la descente aux enfers. Les faits aujourd'hui le démontrent. Nous avons la dépréciation de la monnaie, nous avons la raréfaction de l'eau de robinet, la raréfication de l'électricité, la raréfication du sucre, et l'absence complète du carburant. Et voilà ce que nous sommes en train d'observer sur le terrain.
Et pour Frédéric Mavrignou-Vira, il revient à la population de dire non au parti CNDD-FDD par la voie des urnes pour se défaire de ce parti qui a plongé l'ensemble des Burundais dans une misère sans nom. Encore une fois, Frédéric Mavrignou-Vira.
Il faut imaginer d'autres voies. C'est quoi? C'est la prise, la conscience du peuple burundais et que c'est lui le patron, c'est lui le chef de la maison, que c'est lui qui peut s'organiser et chasser ce pouvoir par les voies reconnues et permettre de mettre sur pied un autre pouvoir qui vient répondre à leurs aspirations. Les Burundais n'optent pas pour ça, ils vont continuer à souffrir. Et comme le disait le président de la République et son premier ministre, le troisième préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme est clair, c'est que les pouvoirs doivent respecter les droits de l'homme pour ne pas forcer le citoyen à adopter des moyens d'extrême recours. Je crois que il est temps que ce pouvoir comprenne qu'il doit respecter les droits de l'homme. S'il continue à se comporter ainsi, ça veut dire qu'il n'y a aucun droit, pas de droit à la vie, pas de droit d'aspirer au bonheur. Non, ça veut dire que le Burundi est condamné. Maintenant, si le Burundi est condamné, il doit se retracer, se rouvrir une voie qui puisse l'aider à retrouver la joie, à retrouver la paix, à retrouver l'espoir. C'est ça, les solutions qui doivent être envisagées et pour qu'on mette fin à cette spirale d'un pouvoir qui veut toujours produire des cadavres, qui veut toujours produire de la misère, qui veut toujours produire de la peur, qui veut toujours produire justement l'absence de toutes les denrées et qui puisse permettre au peuple burundais de vivre le bonheur.
Inzamba. Dans le domaine de la justice, la syndicaliste Milienne Sibomana, ancien secrétaire au lycée technique Christian Roy de Mushasha Gitega, totalise ce mercredi 28 août 2024 son 60e jour derrière les barreaux de la prison de Gitega et malgré son acquittement prononcé il y a 2 mois. Cette détention prolongée est injuste et illégale selon Maître Janvier Vigilimana, qui indique que cette détention constitue une violation flagrante des droits fondamentaux garantis par la Constitution burundaise. Il demande à la ministre de la Justice d'ordonner la libération immédiate et sans condition d'Emilienne Sibomana. Suivez Maître Janvier Wigilman.
Nous observons, on constate malheureusement qu'Emilienne Sibomana n'est pas encore libre. Ceci est une violation grave des droits de cette syndicaliste. Nous pensons que ceux et celles qui ont été impliqués dans cette violation devraient se ressaisir pour qu'elle puisse retrouver sa liberté la plus immédiate possible. En effet, c'est l'article 262 du Code de procédure pénale qui prévoit qu'une personne qui est libérée doit être mise dans l'état, dans la position où le juge l'a placée. Malgré un éventuel appel, un éventuel recours contre la décision en question par le ministère public, dans l'hypothèse où le ministère public a interjeté appel contre cette décision qui a acquitté Emilienne Sibomana, nous pensons que cela n'est pas une justification de la maintenir en détention, étant donné qu'elle doit être libre depuis que le juge l'a décidé. Nous demandons donc que les autorités burundaises, plus particulièrement les autorités judiciaires, puissent tout faire pour que cette syndicaliste, cette mère responsable, puisse retrouver sa liberté, parce que tous les jours, tous les mois qu'elle a connu la prison, qu'elle a été incarcérée, c'était de l'injustice, c'était de la violation flagrante, non seulement des dispositions constitutionnelles, mais aussi d'autres lois qui régissent le Burundi. Nous demandons donc que toutes les mesures soit prise sans attendre, et notamment pour poursuivre tous les éducateurs et toutes les personnes qui commettent ce genre de crime à l'endroit des enfants du Burundi, notamment en milieu scolaire. Cela va permettre non seulement de sécuriser la vie scolaire des jeunes burundais, mais aussi ça va permettre à ce que les délinquants, les criminels qui sont impliqués dans ce genre d'infractions, dans ce genre de crimes, puissent être poursuivis conformément à la loi.
Et pour rappel, Emilienne Sibomana a été accusée d'avoir dénoncé les abus sexuels du directeur de cette école Christ Roi de Mushasha, Laurent Nakamtimana, contre les jeunes filles de l'école. Et pour clore ce journal, la Ligue des droits de l'homme, IT Kassodi, très préoccupée par la perte des vies humaines dans les travaux d'exploitation minière. L'organisation a répertorié 19 orpailleurs morts dans l'éboulement des terrains au cours de la période allant du mois d'octobre 2023 au mois de mars 2024. La Ligue ITK pense que cela a été dû par une mauvaise gestion du secteur minier. Elle demande au gouvernement de se ressaisir pour mieux l'organiser afin de limiter les dégâts matériels et humains. On écoute Jide Havogyaremye, il est porte-parole de la Ligue des droits de l'homme ITK.
Malgré l'existence des lois sur la responsabilité d'inspection du ministère en charge des mines et carrières, en termes de procédures d'exploitation, le respect et la protection de la vie socio-sanitaire et sécuritaire de la communauté, ainsi que l'environnement, la Ligue ITK constate amèrement la mort de plusieurs exploitants des mines au Burundi, dont la plupart sont des orpailleurs, ce qui constitue une violation des droits de la personne humaine. L'exploitation minière au Burundi n'est pas considérée comme un secteur capable d'apporter une importante contribution à la croissance économique du pays. C'est une activité encore presque absente dans le pays. Pour le moment, elle est limitée au niveau des exploitations artisanales, non organisées et moins contrôlées. La Ligue ITK recommande au gouvernement de Gitega de prendre toutes les mesures pour limiter les dégâts environnementaux qui occasionnent la mort des exploitants, contrôler et protéger la population contre ces incidents en faisant respecter les obligations contractuelles des exploitants miniers. À l'endroit des exploitants, la Ligue ITK recommande de souscrire à une police d'assurance pour leurs employés sous peine de sanctions en cas de manquement à cette obligation. La Ligue ITK suggère au gouvernement d'organiser des visites régulières d'inspection et de contrôle aux sites minières dans le but de monitoring de la situation des exploitations par rapport à une situation respectueuse de l'environnement et de la sécurité des humains.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Au micro, vous étiez avec Eddie Claudine Azoué. Au revoir.